Bienvenue dans Allo Bouvard, jusqu'à midi, Philippe Bouvard est avec vous sur RTL. Bonjour Philippe.
Bonjour Virginie, bonjour vous tous qui nous écoutez et à qui je vais peut-être permettre d'en savoir davantage.
Allo, ici Bouvard sur RTL.
La France championne des bébés hors mariage. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Quelles sont les raisons? Je vais poser la question au professeur Gilles Pison, savant démographe. Bonjour, monsieur le professeur.
Bonjour.
Est-ce que ça pose un problème social, le fait que 6 bébés sur 10, c'est quand même une proportion considérable, surtout par rapport au passé, sont nés hors mariage?
Alors, on serait dans la situation d'il y a 50 ans où ces enfants, nés de parents non mariés, étaient d'abord appelés des naissances naturelles ou illégitimes. Elles n'avaient pas les mêmes droits que les enfants nés de parents mariés. Ça poserait un problème, en effet. Mais à l'époque, il y a 50 ans, ce type de naissance était rare. C'était que 6% des naissances. Donc, le phénomène qu'aucun sociologue, aucun démographe n'avait prédit, c'est qu'elles sont devenues la norme, en tout cas la majorité, puisque voilà, 6 enfants sur 10 naissent de parents non mariés. Donc, la norme sociale a changé, mais le statut de ces enfants a complètement changé, puisque maintenant, il est aligné sur celui des enfants nés de parents mariés.
Voilà. Enfin, on n'enregistre plus cette gêne qu'il pouvait y avoir pour certains élèves à l'école lorsqu'ils n'avaient pas de papa déclaré et que d'autres élèves en avaient.
Voilà. Alors, aussi, le grand changement, c'est qu'une partie de ces enfants, soi-disant illégitimes, n'avaient pas de père, hein. Or, aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est-à-dire que, si vous voulez, en plus, donc, on ne distingue plus selon que les enfants sont mariés ou pas, mais avec cette banalisation des naissances de couples non mariés, la reconnaissance paternelle est devenue la règle. Et ça veut dire que la part des enfants non reconnus par le père, par un père, n'a pratiquement jamais été aussi faible. Donc, c'est une évolution qui est allée de pair. Mais donc, cette proportion d'enfants pour lesquels il n'y a pas de père qui l'a reconnu, en tout cas dans l'année, elle est de 4% aujourd'hui. Elle est plus faible qu'il y a 50 ans. Donc, la distinction qui existait auparavant entre enfants légitimes et enfants naturels, elle s'est déplacée. Elle passe aujourd'hui entre enfants non reconnus par leur père et enfants bénéficiant de la double filiation, que les parents soient mariés ou non au moment de la naissance.
Parallèlement, M. Pison, le nombre de jeunes mères, de très jeunes mères, et le nombre de mamans qui sont moins, a-t-il évolué?
Alors, si vous voulez, en 50 ans, depuis la fin du baby-boom, c'était dans les années 60-70, il y a eu des évolutions dans la famille, dans la venue des enfants. Pas tellement dans le nombre d'enfants que les femmes mettent au monde, parce que les femmes qui ont des enfants aujourd'hui en ont 2 en moyenne, comme leur mère il y a 30 ou 40 ans. La principale différence, c'est qu'elles les ont beaucoup plus tard que leur mère. Si vous voulez, les femmes il y a 40 ans, qui accouchaient à 40 ans, avaient leurs enfants en moyenne à 26 ans. Et leur premier-né l'avait à 24 ans. Les femmes qui aujourd'hui sont mères, ou en tout cas on a les statistiques pour l'année 2017, elles ont eu leur enfant en moyenne à 31 ans. Et quand c'était leur premier-né, c'est à près de 29 ans. Donc l'âge à la naissance du premier enfant a reculé de près de 5 ans en 50 ans. Ça, c'est là le vrai changement. Mais le nombre d'enfants que les femmes ont n'a pas beaucoup changé au total.
Alors, permettez-moi d'ajouter, mais c'est moitié une constatation, moitié une boutade, une raison pour que les mariages tardifs interviennent moins pendant une grossesse. J'ai lu quelque part qu'il existait un véritable alcoolisme fœtal.
Alors, j'imagine que ça a toujours existé, ce phénomène. C'est qu'on y fait plus attention aujourd'hui qu'autrefois. notamment parce qu'on a pu faire le lien entre l'alcoolisation et alors notamment les séances où on boit beaucoup d'alcool, hein, comme dans certaines soirées, et des problèmes de croissance, de développement que peuvent rencontrer les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère lorsque elles se sont alcoolisées. Alors, c'était pas connu avant. Donc, maintenant, on a des résultats de recherche très précis qui font le lien. D'où ces recommandations de ne pas boire d'alcool du tout pendant sa grossesse. Alors, on le voit sur les bouteilles, sur les étiquettes, c'est tout petit, mais il y a cette préoccupation de ce phénomène. Vous avez un certain nombre d'enfants qui naissent avec, dès le départ, des difficultés, des handicaps, uniquement liés à ce que leur mère a bu pendant la grossesse.
Et donc, notamment à l'occasion d'un mariage. Un grand merci, monsieur le professeur.
Au revoir.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Ça, c'est un nouveau marché qui est né de la méfiance qu'a suscité le fait que de plus en plus de CV, c'est-à-dire de curriculum vitae, sont un peu bidonnés. Alors, il y a une start-up qui s'est chargée d'aller débusquer les petites erreurs et les gros mensonges. Et je peux vous dire que les examinateurs de cursus ne savent plus où donner de la tête parce que, bon, il faut compter avec les gens qui, soi-disant, ont suivi les cours d'une grande école alors qu'ils ne sont entrés dans cette école qu'un jour du patrimoine. Il faut compter avec ceux qui se réclament d'un grand patron qu'ils n'ont jamais connu, avec ceux qui, soi-disant, ont travaillé dans une entreprise qui ne les a jamais employés. Et puis, il y a des exemples célèbres. Il y avait François Giroud qui arborait une médaille de la Résistance qui avait été décernée à sa sœur. Et Rachida Dati, plus près de nous, qui se vantait de posséder un MBA qu'en réalité, elle n'avait pas. Voilà. Alors, c'est quand même gênant parce que ça met en cause l'honnêteté du candidat à un emploi et en même temps, l'employeur n'a pas toujours les moyens d'aller vérifier, quelquefois très loin. Alors, vous me direz qu'Internet aide beaucoup à l'honnêteté des uns et à débusquer la malhonnêteté des autres, mais enfin, ça ne suffit pas.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
La corruption existe-t-elle en France ? Eh bien, écoutez, je vais vous faire une réponse sans ambiguïté et plutôt optimiste, ce qui est rare durant la période que nous vivons. Il faut au moins nous laisser cela. La France n'est pas un pays gravement corrompu. La preuve, c'est qu'elle se classe au 23e rang sur 180 pays. Et que s'il y a une petite corruption des élites, oh, mesurée, puisque la statistique dit qu'il y a un élu sur 1000 qui est condamné pour corruption, c'est vraiment bénin. La corruption à la base n'existe pas comme ailleurs, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller voir un douanier, un policier ou même une contractuelle qui veulent vous épingler et lui mettre un petit billet dans la paume. Non, ça ne fonctionne pas chez nous. Et même, ça peut entraîner des poursuites. Alors, je rappelle quand même que pour que la corruption existe, il faut que se rencontre un corrupteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus d'argent que de morale, et un corrompu, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait bien avoir ce qu'on appelle un complément de ressources. Bon. À partir de là, y a évidemment de l'argent qui peut transiter d'une poche à l'autre. C'est d'ailleurs la vocation de l'argent. Hein. Celui qu'on a dans sa poche, il vient toujours d'une autre poche. Donc, il faut faire très attention. Bon. Ensuite, il faut qu'il y ait un corrompu, donc c'est quelqu'un qui a des besoins que son travail ou sa fortune ne lui permet pas de satisfaire. faire. Voilà. Alors, à partir de là, il y a un classement. Les pays les plus corrompus sont alors souvent des pays africains, hein, que nous connaissons mal, comme la Somalie, comme le Soudan du Sud. Et ce sont des pays qui sont pauvres. Et naturellement, la Syrie, qui est un des pays les plus exécrables qui soit depuis que M. Bachar al-Assad le dirige. Il y a aussi, parmi les moins corrompus, la Nouvelle-Zélande, le Danemark. Alors, le Danemark qui paye énormément d'impôts, puisqu'il vient tout de suite derrière nous qui sommes les champions. Et puis, la Finlande, la Norvège et la Suisse. Voilà. Alors, nous, on est plutôt bien, quoi. De temps en temps, il y a un petit scandale. Bon, parce qu'il y a des gens dont c'est devenu le métier désormais de porter ces scandales à la connaissance du public. Alors, ensuite, il y a la vertu qui reprend ses droits complètement pendant quelques mois. Il faut aussi se poser la question de savoir si la fameuse transparence avec laquelle on s'est tellement gargarisé a augmenté la connaissance des patrimoines et par voie de conséquences de la corruption. Je pense qu'il est plus difficile aujourd'hui de faire des petites combines qu'avant. Ensuite, je prends un exemple de corruption et un exemple qui n'a pas été jugé parce que les médias se sont montrés, voici 18 mois, beaucoup plus empressés que la justice aujourd'hui. C'est les fameux trois complets qu'un avocat avait offert à François Fillon. Bon, est-ce que trois complets veston, ça relève de la corruption? Bon, alors, je vais vous citer ce que M. Lula, l'ancien président du Brésil et longtemps le vertueux représentant du Parti des travailleurs, a accumulé et qui lui vaut aujourd'hui 9 ans de prison. Quand on a forcé la porte, parce que pendant 2 jours, il s'était retranché chez lui, on a trouvé des documents qui indiquaient la propriété de 3 appartements, de quelques terrains à bâtir, et ensuite on a trouvé des caisses d'argent. Liquide, oui. Et comme l'ont remarqué les enquêteurs, jamais, jamais ces spécialistes n'avaient vu autant d'argent, surtout illégal, réuni dans des caisses et dans des valises. Alors, bon, vous me direz aussi, il y a M. Poutine. Bon, M. Poutine, il n'est pas en prison, mais M. Poutine, il a une 20aine de palais, alors qu'à l'origine, c'était un petit fonctionnaire de la municipalité de Saint-Pétersbourg. Et à ses palais, il ajoute 5 yachts, oui, au cas où il y en aurait 4 qui seraient plus en état de prendre la mer, et puis une douzaine d'hélicoptères. Bon, est-ce que ça, c'est pas de la corruption? Est-ce qu'il n'a pas été obligé de pressurer, de mettre à l'amende certains de ses amis, mais certains de ses ennemis, d'ailleurs? Bon, alors, il faudrait quand même faire disparaître, si ça existe encore chez nous, les petits services que peut rendre un politicien à des entreprises qui sont importantes et qui ont des moyens. Parce que quand même, attendez, tout ça c'est très sérieux, ça représente 2000 milliards chaque année de pots de vin et 2600 milliards de dessous de table. Vous voyez que c'est énorme et naturellement, c'est le pauvre contribuable lambda qui fait les frais de cette malhonnêteté. Bon, un mot pour finir, personnellement, et bien que j'ai cru de temps en temps détenir une petite partie du pouvoir médiatique, petite partie, mais partie visible quand même, et parfois quotidienne, jamais, entendez-vous, jamais on ne m'a proposé la moindre enveloppe. Alors, est-ce que je ne me faisais pas des idées, ou bien sur la malhonnêteté des gens, ou bien sur mon influence?
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors, une nouvelle tendance, celle qui voit la multiplication des drones. Et pour en parler, le spécialiste du drone civil. Bonjour, monsieur Francis Duruflet.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, les, en nombre, les drones civils aujourd'hui ?
Alors, sur l'année 2017, en France, les drones civils représentent un total de 500 000 drones qui ont été vendus, dont environ 9 à 10 000 qui l'ont été pour des applications professionnelles.
Et combien de drones militaires ?
Alors, en ce qui concerne les drones militaires, les nombres sont beaucoup plus discrets et beaucoup plus restreints. Les drones militaires, on va de la dizaine de gros drones qui sont utilisés à travers le monde jusqu'à des flottes d'environ 20 drones, 20 à 80 drones de taille plus réduite.
Quelle est la définition légale du drone ?
Alors aujourd'hui, le drone, d'ailleurs, c'est historiquement, on dit drone parce que les premiers équipements étaient utilisés des moteurs à essence et le bruit ressenti par les personnes au sol est le bruit d'un bourdon. Donc en anglais, on a associé ça au drone. En réalité, légalement, ce sont des aéronefs téléopérés, des aéronefs sans pilote qui sont télépilotés. Donc la définition légale, c'est donc un équipement qui est piloté depuis le sol, mais qui dispose de capacités de vol en autonomie.
Alors, sans pilote et sans passager.
Exactement.
Mais
et sans passager pour l'instant, parce que quelques expérimentations vont commencer dans les prochaines années de taxis drones. Donc, des passagers, mais pas de pilote.
Mais pas sans charge à transporter.
Alors, exactement. Le point très important du drone aujourd'hui, le drone est utilisé pour réaliser des missions et les missions sont réalisées par la charge utile que le drone transporte. Donc la charge utile, elle va définir la mission du drone. Ça peut être par exemple un appareil photo, ça peut être par exemple une caméra, ça peut être aussi d'autres équipements de prélèvement de mesures environnementales par exemple. Donc la charge utile, effectivement, conditionne la mission du drone.
Quel carburant ?
Aujourd'hui, à peu près 90% ou même plus des drones utilisés en France sont à base de batteries, donc des batteries lithium qui vont propulser ces drones. On a très peu de modèles, quelques modèles, très peu, qui utilisent de l'essence et des drones à moteur thermique qui généralement sont vraiment pour des besoins très particuliers, professionnels.
Quelle autonomie de vol ?
Alors aujourd'hui, l'autonomie de vol a énormément évolué. Hein. On commençait il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, avec des autonomies moyennes en général de 10-15 minutes. Les meilleures étaient à 20 minutes. Aujourd'hui, on est couramment sur du 30 minutes de vol avec quelques produits qui dépassent les 90 minutes de vol. Donc une heure et demie, comme par exemple les drones qui sont capables de faire des opérations de grande élongation, hein, donc qui vont partir sur plusieurs dizaines de kilomètres, eux ont des autonomies bien supérieures à l'heure de vol.
Est-ce qu'à votre connaissance, les paparazzi vont recourir aux drones, s'ils l'ont déjà fait ?
Oui, tout à fait, exactement. Ça a été parmi les premiers utilisateurs d'ailleurs des petits drones, quand les drones ont commencé à être disponibles. Les premiers utilisateurs, bien entendu, ça a été les paparazzi, qui doivent certainement aujourd'hui continuer de les utiliser, parce qu'effectivement, c'est un moyen extraordinaire de pouvoir déplacer l'appareil photo dans l'espace au plus près de la cible choisie, donc en faisant fi des barrières, des clôtures, etc. C'est totalement interdit, bien entendu, mais les paparazzi l'utilisent depuis un bon moment.
Alors, dernière question. Faut-il déposer des plans de vol si on veut éviter les télescopages de drones ?
Alors, c'est aujourd'hui en discussion et en étude. C'est ce qu'on appelle le UAV Traffic Management. Ça serait un peu la tour de contrôle de l'utilisation des drones. À l'avenir, il y aura certainement, pour certains, d'ailleurs certaines applications, de la gestion du trafic aérien de drones qui permettra d'éviter le télescopage entre les drones, mais aussi entre les drones et les autres utilisateurs de l'espace aérien que sont les aéronefs opérés. C'est pour ça aussi qu'il est complètement interdit d'utiliser un drone proche d'un aéroport, à plusieurs dizaines de kilomètres d'un aéroport, parce que à ce moment-là, l'avion va quitter son niveau de vol et va commencer à rejoindre la Terre. Donc, il va arriver à des hauteurs de vol compatibles avec la hauteur de drone d'un drone. C'est pour ça qu'il est interdit pour un drone de voler proche d'un aéroport.
Vous avez personnellement des drones, Monsieur Duruflet ?
Oui, plusieurs drones. Donc, des drones.
Vous en servez-vous ?
Alors, comme beaucoup d'utilisateurs. On achète le drone, c'est un petit peu pour le loisir, hein, j'entends, pour aller s'amuser avec, faire des quelques observations, etc. Ce qui permet souvent d'observer, par exemple, sa maison sous un angle différent ou d'aller voir une observation de l'environnement très, très intéressante avec ce point de vue aérien.
Merci et bravo, parce que on est là au début d'un des progrès les plus populaires qui soient. Merci, oui. Monsieur Duruflet.
Merci à vous, Monsieur Bouvard. Au revoir.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors, comme chaque semaine, il y a maintenant un nouveau mot. Bon, un néologisme, souvent quelque chose qui a été fabriqué par des intellos, pas toujours compris par la grande foule, mais enfin qui traduisent des nouvelles tendances. Par exemple, ce qu'on appelle le frugalisme. Et le frugalisme, il est en train de se développer à la fois en France et en Allemagne, mais il nous vient des États-Unis. Alors, ce n'est pas quelque chose de très réjouissant, ni par exemple, au lieu de fréquenter les grands restaurants, de mener la vie à grande guide, ça consiste à réduire drastiquement ses dépenses, à se nourrir de très peu, à vivre de très peu et surtout avec l'arrière-pensée, en faisant des économies, de pouvoir prendre sa retraite dès 40 ans. Alors, la fin de l'étude ne dit pas si à partir de 40 ans et avec les économies qu'on a touchées, et peut-être la recette si on arrive à la toucher à cet âge-là, on vivra quand même mieux.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Merci Philippe, à dimanche prochain pour un nouveau Allô, ici Bouvard sur RTL. Et dans un instant, le grand jury RTL Le Figaro LCI présenté par Benjamin Sportouche. Vous écoutez RTL, il est midi. Les infos, Alexandre de Saint-Aignan.